Alors, bonjour à tous, merci de votre accueil. Ce temps de culte particulier, un accueil que je reçois déjà à travers les textes bibliques qui ont été lus. D'heureux est l'homme, voici l'homme d'heureux. Je n'ai pas trop la prétention quand même d'être comme l'apôtre Paul devant le roi Agrippa dans Actes 26, de dire « j'aimerais que vous soyez tous comme moi ». Hormis ces chaînes, mais j'en ai pas. Voilà, que vous soyez d'heureux comme moi. Voilà. En tout cas, je suis d'heureux d'être au milieu de vous et de partager ce temps de culte. Et un temps de culte particulier aussi pour votre communauté, puisque après, j'ai compris que nous allons avoir aussi un temps de prière particulier aussi pour le projet que vous portez. Et vous avez vécu aussi tout un temps spécial de prière aussi dans cette semaine où la prière était centrale aussi à la vie de votre communauté et pour porter le projet aussi de bâtiment. Et c'est autour de la prière que j'aimerais apporter ce matin la réflexion. À partir d'un texte que nous avons chanté d'ailleurs aussi, à l'heure, le psaume 85 qui a été chanté. Lorsque je lirai le texte un peu plus tard, vous allez vous souvenir de ces paroles de ce psaume 85 qui a été chanté. Alors, nous aimons à travers nos temps de culte rappelez que ce sont des temps de prière et d'écoute de Dieu. Le culte, pour nous, c'est ça, c'est le fait de nous adresser à Dieu et de nous arrêter aussi pour entendre ce que Dieu a à nous dire, peut nous dire. Et nous le dit de manière diverse, à travers les chants, à travers les prières, la lecture de la Bible que nous reconnaissons comme sa parole vivante, à travers aussi les silences, à travers les gazouillis aussi des enfants. À travers tout cela, Dieu nous parle aussi, à travers le regard d'un frère, d'une sœur que nous croisons. Dieu nous parle. Le culte, c'est ce temps privilégié que nous consacrons et que nous voulons consacrer à Dieu, à la fois pour lui dire ce qui est en nous, mais pour recevoir surtout ce qui est en lui, pour que toutes ces bonnes choses qui sont en lui puissent aussi vivre en nous et être partagées aussi à travers nous. Priez, et vous avez là le rappel que Paul a adressé aussi dans ses épîtres, prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que nous devons être à genoux perpétuellement, prier sans cesse, mais comment vivre alors notre journée s'il faut prier sans cesse et être tout le temps en train d'adresser à Dieu des prières? Qu'est-ce que ça veut dire aussi, prier sans cesse? Et on sait aussi que prier ne va pas de soi pour tout le monde. À tel point même que les disciples de Jésus l'ont supplié, apprends-nous à prier. Les disciples de Jésus qui avaient grandi, quand on lit les évangiles, en tout cas dans un contexte avec une culture juive où la prière était présente, ils le supplient, apprends-nous à prier. Inspirant ainsi, cette demande qui a inspiré ainsi la très connue prière dite du Notre Père. Si prier, c'est s'adresser à Dieu, dialoguer avec lui d'une manière ou d'une autre, la prière est, et vous le savez, est plus qu'un acte religieux et pieux. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes engagé dans cette semaine à vivre des temps de prière particuliers, parce que c'est aussi se mettre en mouvement que prier. Je me souviens à l'époque, quand dans notre fédération, on avait lancé le chemin du maître, qui était tout un programme d'enseignement pour nos églises de discipula, comme on appelle ça maintenant, c'est-à-dire à apprendre à vivre la vie de disciple. Et dans le chemin du maître, il y avait une phrase qui m'avait marqué et qui reste, c'est « Tout combat, en fait, se gagne à genoux. Tout combat se gagne à genoux. » C'est-à-dire, on a chanté les soldats et tout à l'heure. Bon, je suis objecteur de conscience, donc j'ai un petit peu plus de mal avec ces chants, mais bon, soldats du Seigneur, l'armée du Seigneur, j'ai un peu de mal, mais... à genoux aussi qu'on combat et que les victoires sont là. Que c'est une attitude, pas simplement des mots, c'est une attitude devant Dieu. Donc on sait bien que la prière est plus qu'un acte religieux et pieux. C'est une attitude. Une attitude du cœur qui peut accompagner aussi alors une attitude du corps. Comme se mettre à genoux, comme fermer les yeux, ouvrir les bras, baisser la tête. Autant d'attitudes pour exprimer, en fait, sa reconnaissance. C'est-à-dire le fait de reconnaître qui est Dieu. Exprimer sa reconnaissance, c'est ça, c'est le fait de reconnaître qui il est et de pouvoir l'exprimer, le dire. Une attitude pour exprimer aussi sa volonté de recevoir une parole d'encouragement, sa disponibilité, la disponibilité de tout son être, de toute sa vie, à servir. Son désir aussi de voir Dieu agir en notre faveur ou en faveur de nos proches, de nos prochains, de nos projets. Et celles et ceux qui expérimentent la prière savent aussi combien elle peut être bienfaisante, combien la prière peut être apaisante, libératrice. Parler à Dieu n'est cependant pas évident pour chacun. Et nous apprenons de ceux qui savent et qui ouvrent pour nous un chemin alors de prière que nous allons faire nôtre au fur et à mesure de notre découverte et de nos expériences. Et on sait que pour des personnes fraîchement, on va dire nouvellement, mais fraîchement converties, voilà, qui se tournent vers Dieu, comment s'adresser à Dieu, quelle expression lui dire, etc. Et nous avons là aussi la communauté et le lieu d'apprentissage aussi, pour vivre cette prière aussi, cette expression à Dieu, mais plus dans l'attitude que simplement dans les mots qui s'alignent les uns derrière les autres. En cela, les psaumes de la Bible sont, je pense, d'une grande utilité. En tout cas pour moi, ils le sont toujours d'une grande utilité. Les psaumes ont inspiré nombre de croyants jusqu'à aujourd'hui et Jésus lui-même a chanté, prié les psaumes, notamment lors du dernier repas qu'il a pris avec ses disciples les plus proches. Les psaumes sont des poèmes destinés à être chantés. Et à l'origine, ils étaient accompagnés alors de musique et les psaumes sont et restent l'expression du cœur de celui qui écrit comme de celui aussi qui lit et dit le poème, expression cœur. Alors, il existe tout type de psaume pour dire sa foi, sa reconnaissance à Dieu, sa joie de lui appartenir, mais aussi pour crier sa détresse, pour dire son inquiétude, pour exprimer sa colère, voire même ses doutes, que oui, le croyant peut douter. Exprimer ses doutes vis-à-vis de la présence et de l'action de Dieu dans sa vie comme dans le monde. Le réformateur protestant Martin Luther disait « Priez et laissez Dieu s'inquiéter ». J'aime beaucoup cette phrase. « Priez et laissez Dieu s'inquiéter ». Car la prière peut aussi être une sorte d'exutoire de notre trop-plein d'angoisse, trop-plein de débats intérieurs, d'incompréhension, de questionnement. Et l'introduction au livre des psaumes de la Bible expliquée décrit très bien le canal d'inspiration que peuvent être les psaumes. Et nous y lisons ceci. Aujourd'hui encore, les psaumes sont une source à laquelle continuent de puiser tous ceux qui cherchent les mots de Dieu pour s'adresser à Dieu. Malgré leur langage quelquefois vieilli ou difficile, les psaumes restent capables d'exprimer notre capacité d'émerveillement. Les problèmes de toutes sortes qui nous accablent, mais ne restent jamais sans solution. Si le plus connu des auteurs de psaumes est sans nul doute le roi David, de nombreux autres psalmistes lui ont emboîté le pas, comme les fils de Corée, rien à voir avec la Corée du Nord ou la Corée du Sud, les fils de Corée qui étaient chanteurs et musiciens au temple de Jérusalem. Et ce groupe-là, on pourrait l'appeler maintenant groupe de louanges, ensemble liturgique. Voilà, ça existait à ce moment-là. Et peut-être qu'on les invitait aussi à prendre un chant que l'Assemblée avait envie d'entonner à un moment donné. Et ils devaient chercher dans leur parchemin, enfin, dans leur pierre, je ne sais rien, leur parchemin et autres, les musiques ou les inventer parfois, comme ça, sur le moment. Cette confrérie des frères et des fils de Corée, en tout cas, était peut-être une confrérie et sûrement une confrérie familiale, compte à son actif plusieurs psaumes, dont le numéro 85 dans la plupart de nos Bibles. Et ce psaume est une belle proclamation de foi, nous plaçant au cœur de la pensée de l'Évangile. Et je vous invite à suivre la lecture de ce psaume dans la version Parole de vie. Psaume du groupe de Corée, psaume 85. Psaume pris dans le livre du chef de chorale. Seigneur, tu as montré ton amour pour ton pays. Tu as rendu son ancienne situation au peuple de Jacob. Tu as effacé les fautes de ton peuple. Tu as pardonné tous ses péchés. Tu as mis fin à ta colère. Tu as abandonné ta violente colère. Reviens vers nous, Dieu notre Sauveur. Ne nous en veux plus. Est-ce que tu seras toujours furieux contre nous? Est-ce que ta colère nous frappera de génération en génération? Est-ce que tu ne reviendras pas nous rendre la vie pour que ton peuple se réjouisse en toi? Seigneur, montre-nous ton amour, sauve-nous! J'écoute ce que Dieu dit. Le Seigneur promet la paix à son peuple, à ses amis fidèles, mais qu'ils reviennent de leur folie. Le Seigneur sauvera bientôt ceux qui le respectent, et sa gloire habitera notre pays. Amour et fidélité se rencontrent. Justice et paix. La fidélité monte de la terre et la justice descend. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre pays donne ses récoltes. La justice marche devant le Seigneur. Elle prépare le chemin devant lui. Seigneur, ta parole est vérité. Conduis-nous dans ta vérité. Trois thèmes principaux rythment le psaume 85. Les versets 1 à 3 nous rappellent le souvenir des actions passées de Dieu. Dans les versets 4 à 7, il est question de l'appel pressant demandant une intervention de Dieu dans nos difficultés. Et la fin du psaume, les versets 8 à 13, sont une sorte de méditation sur la grâce et l'amour de Dieu. Quelle que soit l'angoisse dans notre vie, peut-être aujourd'hui, Ce psaume nous encourage à nous placer dans la perspective d'une vie entière vécue avec Dieu, mais telle qu'il veut se laisser connaître à nous. Ce psaume illustre bien la tension que les croyants ont vécue tout au long des siècles entre une foi assurée par ce que Dieu a fait et la réalité du quotidien dans lequel Dieu semble être devenu lointain, voire même absent, dire indifférent. Est-ce que Dieu nous a oubliés? Comment est-ce même possible qu'il ait laissé tomber celui ou celle qu'il a par le passé soutenu, protégé? Tant de questions, d'interrogations qui nous accablent, qui nous écrasent. Dieu est-il vraiment comme cela à vouloir jouer avec nos nerfs? Les paroles ouvrant le psaume 85 célèbrent pourtant le pardon et la miséricorde divine. Pardon et miséricorde qui sont la base même de l'existence du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est fondé sur le pardon et la miséricorde que Dieu accorde à son peuple. Ce sont là des faits historiques et rien ne peut changer le récit des actes puissants de Dieu dans le salut de son peuple. Ils sont comme des pierres posées sur le chemin qui sont là immuables, comme tous les faits historiques et toutes les actions de Dieu dans notre propre histoire. Et lorsque nous nous arrêtons et regardons en arrière, nous pouvons voir toutes ces pierres qui sont autant de rappels de la bonté et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Et pourtant, il nous arrive, et quelque part nous avons le droit de nous poser la question lorsque nous sommes peut-être à la croisée de chemin, mais où est Dieu? Où est-il passé? Est-ce qu'il est là à nous accompagner, à m'accompagner aussi? Certes, Dieu agit avec bonté et efficacité, mais va-t-il? Veut-il continuer à être bienveillant et prévoyant? L'humeur change lorsque le psalmiste questionne les intentions de Dieu. Est-ce que tu nous en veux toujours? Se révèle alors déception, lamentation en raison de l'absence supposée de l'expérience de la grâce de Dieu dans le moment présent. Les sentiments négatifs résonnent avec les cris de nos propres vies. Inquiétude, culpabilité, reproches sont le lot angoissant des auteurs de ce psaume, comme ils sont le lot de chacun d'entre nous en proie à l'épreuve, à la maladie, à la solitude, au rejet, au deuil, à l'échec, à l'exil. L'inquiétude ronge le cœur au risque de perdre jusqu'à notre compréhension de qui est vraiment Dieu. L'inquiétude ronge nos cœurs au risque de perdre notre compréhension de qui est vraiment Dieu pour nous. Et notre fausse image d'un Dieu qui écrase nous éloigne alors de lui. La confiance en Dieu fondée sur ses actions bienveillantes passées peut faire place alors à l'humeur négative du moment. Mais sommes-nous prêts à l'entendre? Et le psaume nous invite à réapprendre de Dieu lui-même en écoutant ce qu'il dit de lui. Un nouvel horizon s'ouvre à partir du verset 9 du psaume 85. J'écoute ce que Dieu dit. Et pour moi, il y a deux points là. Et la suite du psaume, quelque part, c'est Dieu qui parle à travers les psalmistes de dire qui il est. J'écoute ce que Dieu dit. C'est comme si, après avoir déversé le trop-plein de son cœur, de son être, de son mal-être, le psalmiste était à court de mots, d'arguments, laissant enfin son interlocuteur, en l'occurrence Dieu lui-même, s'exprimer. Un peu comme en tant que papa, je suis devant mes enfants, je pense à votre dernière fille qui va parler, arrivé à un moment donné, puis savoir et dire c'est bon, on va pouvoir remplacer une. Ben, des fois avec Dieu, c'est pareil, on a tellement de choses et on déballe, et puis ben, il accueille, il prend tout ça. Et arrivé à un moment donné, c'est bon. Ça va, maintenant, je peux parler. Ce que le psalmiste va entendre est étonnant. Ce qui est entendu est bien loin de ce qui est attendu. La réponse divine des versets 9 à 13 du psaume 85 n'est pas un flot de reproches, mais au contraire déborde de mots de réconfort et de bienveillance. Cette réponse divine ouvre sur un univers plein d'espoir et de belles promesses. Dieu est près de ceux qui le respectent. Dieu lui-même offre le bonheur à qui sait le reconnaître. Loin du Dieu juge et imposant, Dieu se présente ici comme un Seigneur de bonté, d'amour, de compassion, de proximité. Sur nos chemins en quête de justice et de vérité, Dieu nous accompagne. Et en cela, nous découvrons le cœur de l'Évangile dans ce psaume qui fait merveilleusement écho à la manière dont l'apôtre Jean présente Jésus dans le prologue de son Évangile. En écrivant ceci, la parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour. Et de plus en plus, Dieu nous a donné la loi par Moïse. Mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. En réponse à nos cris angoissés, Dieu répond lui-même, en personne, avec une parole d'espérance et une parole d'avenir. Et la deuxième partie du psaume 85 décrit bien cette présence espérée. La joie, les belles récoltes, la justice et la paix remplissent tout le pays. Et le psalmiste qui suppliait Dieu en s'inquiétant de l'avenir est alors devenu confiant, assuré que le Seigneur fera le bonheur de son peuple. Si cela n'est pas l'Évangile, la bonne nouvelle par excellence. Mais ce psaume 85 est aussi un psaume qui engage. Comme je le disais au début de ma méditation, la prière nous engage, nous met en route aussi dans la confiance en Dieu. Comme les auteurs du psaume 85, nous sommes aussi encouragés à trouver consolation, encouragement en réfléchissant sur qui est Dieu, sur son caractère, rendu alors manifeste par ses actes passés. Oui, si Dieu a été plein de grâce et d'attention dans le passé, alors pourquoi ne continuerait-il pas à déverser sa grâce et ses bienfaits aussi sur notre présent, même malmené, sur notre avenir, même incertain? Le désir du psalmiste est de faire découvrir une fois de plus au lecteur et donc à nous la qualité d'amour infaillible de Dieu. Et le mot hébreu ici utilisé, et je fais mon savant là, recède. Ce mot hébreu, que l'on pourrait traduire par fidélité aimante, est en fait central dans le psaume 85. La recède de Dieu, cette fidélité aimante de Dieu. Et on peut citer à nouveau les versets 11 et 12 de ce psaume 85. Amour et fidélité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La fidélité monte de la terre et la justice descend du ciel. Associé à l'amour, à la justice et à la paix, cette fidélité aimante se recède, qualifie de manière unique la fermeté de l'engagement et du don de Dieu, qui se soucie du meilleur pour ses créatures. Cette perspective change alors notre représentation de qui est vraiment Dieu. Au jugement redouté, présupposé, succède alors la paix promise à ceux qui ont compris qu'un autre chemin est possible, loin des folies humaines. En écho résonnent les paroles de Jésus proclamées après la résurrection à chaque fois qu'il se présente à ses bien-aimés, « La paix soit avec vous ». Ce shalom qui n'est pas simplement une paix passagère, une paix après la guerre, et une attitude de vie, un bien-être global. La paix soit avec vous. Shalom. Qui reçoit et accepte cette parole de bénédiction est aussi alors redevable de la transmettre à son tour par une vie transformée par ce shalom. En Jésus, le ciel se joint en quelque sorte à la terre pour que ceux qui se réclament de l'amour et de la fidélité de Dieu alors manifestent la paix et la justice de Dieu. Et ce, pour le plus grand bonheur et le bien-être de tous. On aurait pu chanter un autre cantique bien connu dans nos milieux protestants. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant combien le nombre en est grand. Et au psaume 85, les auteurs commencent aussi leur chant de louange en comptant les bénédictions du Seigneur. « Seigneur, tu as montré ton amour pour ton pays, tu as rendu ton ancienne situation au peuple de Jacob, tu as effacé les fautes de ton peuple, tu as pardonné tous ses péchés, tu as mis fin à ta colère, tu as abandonné ta violente colère. » De nombreuses prières hébraïques, et beaucoup d'entre elles étant d'ailleurs consignées dans la Bible, commencent par des mots de bénédiction. Et dans la littérature rabbinique, il est même dit ceci. Si vous aimez quelque chose dans ce monde sans dire une bénédiction, c'est comme si vous l'aviez volé. C'est beau, hein? Si vous aimez quelque chose dans ce monde sans dire une bénédiction, c'est comme si vous l'aviez volé. C'est pour ça qu'il nous plaît, à chaque fois que nous prenons le repas, de dire les bénédicités comme dans d'autres milieux, mais la bénédiction, pour dire qu'on n'a pas volé notre pas quand même. Voilà. Dire les bienfaits et les bénédictions de Dieu nous engage aussi à les porter en nous et à travers nous. Car si elles sont pour nous, elles sont aussi pour ceux et celles qui nous entourent. La justice, la vérité, l'amour, la fidélité sont autant de richesses recherchées par tous et partout. Et notre responsabilité est de porter en nous ce que Dieu y a déjà déposé. En terminant, je vous laisse cette prière parce que nous voulons que l'Église de Jésus-Christ soit toujours à son image, qu'elle soit la juste et authentique représentation de comment Dieu se présente lui-même. Et je vous invite à accueillir cette prière. Seigneur, je prie pour ton Église. Je te remercie pour cette communauté rassemblée en vue de faire connaître ta sagesse, ta beauté, ton pardon et ton amour. Seigneur, nous demandons ta bénédiction sur la vie locale des églises dans leur engagement dans le monde et la société pour manifester l'amour, la vérité, le service et la puissance de ton esprit. Seigneur, ton Église n'est pas ce qu'elle devrait être. Il y a trop de divisions, trop de confusion. Trop peu de ton caractère, trop peu de ton amour. J'avoue mes propres échecs dans ce domaine. Je suis aussi responsable que n'importe qui d'autre. Seigneur, je prie pour que ton Église réponde à ton appel à être authentique au travers d'une expression d'amour, de vérité, de puissance que le monde n'a jamais vue encore. Puissions-nous incarner ta justice, ta fidélité et ta paix. Seigneur, je prie pour que le monde te voie, te connaisse et te reconnaisse à travers ton Église comme à travers moi.